Lettre ouverte à mes parents à propos de cette folie qui monte aux urnes. Papa, maman, encore une fois la flamme prend de l'ampleur et la France s'embrase dans la peur, le repli et la bêtise. Et encore une fois, je n'arrive pas à comprendre. C'est pas comme ça qu'on a grandi, c'est pas comme ça qu'on a appris. C'est vrai qu'à la maison, vos amis venaient souvent et qu'ils pouvaient s'appeler Alain, David, Anne-Laure, Nadia, Temtem, Ali ou Rachid. Et que pour moi et les frangins, ça nous semblait normal de grandir parmi tout ce petit monde. J'ai parfois même eu un peu de mal à savoir qui étaient mes oncles et tantes, tant vous m'avez appris que parfois la famille, c'était aussi celle du cœur. À la maison, on mangeait du rôti, du couscous ou de la pizza. Bon, et du jambon puré sur les fins de mois. Vous aimiez la musique et sur les gros amplis, vous pouvez tout aussi bien jouer du Brassens, du Queens que du Idir. J'ai fini par devenir végétarien et écouter du Rihanna. L'ouverture et la diversité, ça mène à tout, mais sûrement pas au rejet. À la maison, on parlait pas vraiment de musulmans. Pas plus de catholiques, en fait, ou de juifs. On n'a jamais trop aimé les curetons, les cultes et la morale. On partageait autre chose, et sûrement beaucoup plus. On pouvait faire les pires conneries, fumer en cachette, voler dans une boulangerie, sécher l'école, mais si on s'amusait à faire preuve d'irrespect ou d'intolérance, on savait que ça allait très mal se passer pour nous. À la maison, on négociait pas avec le respect et la tolérance. C'est vrai aussi qu'on a eu de la chance d'aller dans les écoles de la République, celles où ça se mélange, où ça se confronte et où ça se découvre. Alors avec les frangins, on a rencontré des Pierre-Marie, des Maël, des Christelle, des Fouzia, des Farid ou des Nassim, même des Abdelkader. C'est quand même un sacré prénom, ça, Abdelkader. En CP, j'avais rencontré Hamza. J'ai jamais trop su d'où il venait, mais pas de France, c'est sûr. Au début d'année, lors d'une partie d'épervier, de haute voltige, il avait lancé à l'équipe « C'est nous qu'on gagnera ». Je m'étais moquée de son accent et de son mauvais français. Quelle rouste je m'étais pris par l'instit. Elle avait fini par nous mettre à côté dans la classe. Et il faut dire qu'on s'était bien marrés. On était devenus les meilleurs amis. En fait, on n'était pas vraiment différents avec Hamza. Et puis je crois me rappeler que sa sœur en pinçait pour moi. Lorsque j'avais 14 ans, la prof de français avait commencé son cours en nous citant une phrase qu'elle avait entendue le matin même à la radio. « Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. » Comment vous vouliez que je comprenne ça à 14 ans ? Mais aujourd'hui, entre terrorisme, chômage, crise, comment ne pas comprendre la justesse de cette vérité ? Papa, maman, j'ai un peu du mal à comprendre cette folie qui monte aux urnes à chaque élection. Moi et une partie de ma génération, on a vécu le 21 avril 2002 et on a regardé ça les larmes aux yeux, impuissants face à celui qui n'en avait qu'un. Aujourd'hui, sa fille garde les siens bien ouverts et ses soldats sont plus que jamais prêts au combat. Aujourd'hui, je préfère encore penser que c'est l'ignorance, la peur, la déception ou une mauvaise expérience qu'on généralise qui ont créé cette montée de l'extrême. Et c'est peut-être grâce à toutes ces expériences, cette éducation, ces rencontres, toutes ces petites choses qui semblent insignifiantes mais qui nous font grandir, expérimenter, découvrir, qui nous forgent l'opinion et le cœur, c'est peut-être pour tout ça que je ne suis pas tombée dans la réponse facile que représente le FN. Et je me dis que je suis loin d'être le seul. Loin d'être le seul à avoir eu des parents comme vous et à avoir fréquenté ces écoles. Loin d'être le seul à avoir passé du temps en colo, dans des clubs de sport et activités culturelles et dans des assos. Loin d'être le seul à qui on a appris l'absurdité du rejet de l'autre et de la xénophobie. Loin d'être le seul à préférer la beauté de l'arc-en-ciel à la tristesse des monochromes. Et dans ces jours sombres, savoir qu'en fait, on est plein de minots comme moi à avoir grandi dans la tolérance et la laïcité, bah ça me permet de garder l'espoir. Et ça me permet surtout de me dire qu'un jour, j'en suis sûre, c'est nous qu'on gagnera. Guillaume, 30 ans, employé dans une asso au Laos, originaire de Nantes. Par contre, je suis désolée, il va falloir que je remonte ça, parce que sinon, je ne vois plus rien.
C'est un texte qui date de quand ?
Ça, les gens de la ZEP pourront peut-être mieux nous répondre. Okay. Vous savez peut-être ? C'est un texte qui date de quand ? Vous ne savez pas ? Je n'ai pas la date, moi, de l'article. Okay. On va retrouver. Je pense des régionales. Hein.
Je ne sais pas. Oui. Avril 2002, c'est ça clair. Qui m'a... Parce que j'aurais pu mettre n'importe quelle date quasiment. Il s'est passé tellement de choses depuis. Mais c'est un texte très intéressant.
Ok. Mes petits frères du TIEC, vous êtes en mission. De base, je suis quelqu'un de timide et réservé. Il m'a fallu pas mal de temps pour oser demander un renseignement à un passant dans la rue. Et plus jeune, même mes amis trouvaient que j'étais trop silencieux. J'aime tourner en dérision ma dégaine de mec sans dégaine. Je surenchéris souvent quand mes potes me charrient. J'ai tantôt trop peu d'estime de moi, tantôt trop, et il est possible que cette entrée en matière ne soit elle-même que fausse modestie. En résumé, je n'ai pas le profil du leader charismatique qui distille des sagesses du haut de sa contemplation. Pourtant, depuis une décennie, je me sens en mission. C'est cette mission qui m'amène aujourd'hui à écrire à mes petits frères. J'aimerais que tu contemples ta rue et ses alentours du rebord de ta fenêtre, que tu prennes le temps de balader ton regard sur ce quartier où tu as grandi, sur ce bitume où tu es tombé, ces murs que tu maintiens debout jusque tard le soir avec ton équipe. J'aimerais que tu prennes du recul sur cette bulle si particulière, sur ces longues journées passées à charrier et à chahuter, sur tes potes plus ou moins clean, plus ou moins respectables, sur ces histoires de gros sous et de placards que l'on raconte avec le cœur qui bat, comme on comptait autrefois d'anciennes légendes guerrières au coin du feu. J'aimerais que tu te poses pour prendre de la hauteur sur ce tableau que tu aimes et que tu détestes, que beaucoup voudraient fuir de crainte d'y rester. Que ton esprit s'envole au-dessus de ces milliers de vies, que tu fermes les yeux et que tu écoutes. Petit frère, tu es en mission. À peine étais-tu arrivé dans ce monde que déjà tu portais sur tes épaules le poids de l'histoire, sans le savoir. Des histoires que tu écoutes avec distraction lorsque le padre te parle du village, du long périple qui l'amena jusqu'ici, bientôt suivi de la mama. Celle-ci complète son récit par des anecdotes pleines de noms que tu entends depuis tout petit sans parvenir à y fixer des visages. Leur vie est tellement différente de la tienne. Et pourtant, de leur bled jusqu'au tien, il y a un parcours fait d'humilité, de courage, de sacrifice et de patience, auquel il te faut faire honneur. Ta mission commence par la fierté. Tu ne dois jamais, au grand jamais, avoir honte de leur étrangeté, de la couleur de leur peau ou de leur accent. L'école de la vie où ils ont étudié leur a enseigné plus de sagesse que tout notre système scolaire ne pourra jamais t'en donner. Petit frère, réalises-tu que tes parents sont des héros ? Ce que je vois par ma fenêtre est tellement triste. À chaque barrette vendue dans l'entrée, à chaque scooter volé, à chaque braquage, à chaque petit qui décroche, c'est comme si on vomissait sur la vie de nos parents. Même si c'est complexe, c'est d'abord à cause de nous que beaucoup de gens nous perçoivent comme des sauvages. Que nos parents bien-aimés soient associés à ces insultes par notre faute, ça me fait mal et ça me révolte. Petit frère, réponds-moi franchement. Est-ce pour voir le nom de son fils dans les faits divers que ton père s'est levé à 3h du matin pendant 40 ans ? On est d'accord, tout n'est pas à jeter ici, bien au contraire. Tu connais les ambiances où ça réunit les pièces rouges pour acheter un paquet de gâteaux premier prix que l'on partage à 10 ? Les barres de rire à n'en plus finir quand on se raconte les anecdotes insolites des uns et des autres ? Les sorties d'école où les mamans des quatre coins du monde tapent la discute en attendant leurs enfants, le partage, la solidarité, le respect. Tu es peut-être en bas de l'échelle, mais tes principes et ton expérience de vie sont une richesse d'une valeur inestimable qui peut profiter à toute la société. Oui, toi, le jeune de quartier que l'on méprise souvent, qu'on suit dans les rayons des magasins, que l'on contrôle, que l'on insulte, que l'on tue. Toi, tu as des choses à apprendre aux autres. T'en rends-tu compte ? Petit frère, ta mission est universelle. Demain, l'histoire commencée il y a plusieurs siècles dans la violence de la colonisation s'achèvera peut-être dans la douleur. Tu le sens, le vent tourne et semble nous pousser vers la sortie. La fin de l'histoire, c'est toi qui l'écris. Soit tu laisses les choses se faire et les tensions identitaires achèveront de nous diviser, soit tu te lèves pour montrer l'exemple et appeler à la paix. La paix entre les quartiers et le reste, entre les Noirs, les Arabes, les Blancs, entre tous. Il te faudra beaucoup de patience et d'énergie, de la sueur, des larmes, du sang parfois. Tout commence sur le rebord de ta fenêtre sous lequel se déroule ton univers. Les blocs, les quads, les commerces, les mamas, la police, le city-stade, les fautes sur les murs, les étoiles déchues. Je sais, ce décor est tellement éloigné de tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure. Mais s'il te plaît, prends le temps d'y réfléchir avant de retourner en bas. Médite sur ces mots et quand tout cela aura mûri dans ton esprit, passe le message à tes gars. Il est temps de sortir de ces caricatures qui nous enferment. Pour tes parents, pour tes aînés, pour toi, et pour tous les petits frères qui ne grandiront pas. Hakim, 24 ans, blogueur et ambassadeur d'Unicité Grande Sainte. Comment je suis devenue féministe ? Il y a 70 ans, le 29 avril 1945, les femmes ont voté pour la première fois en France. Il y a 2 ans encore, je ne faisais pas attention à ce genre d'informations. Je n'étais pas aussi sensible aux discriminations liées au sexe des individus ou de leur identité sexuelle. Je crois que c'est arrivé quand j'ai commencé à assumer ma propre identité sexuelle, le fait d'être une femme et de me rendre compte de tout ce que cela implique dans notre société actuelle. Tout a commencé par le choix d'un cours à la fac. Arrivé en retard aux inscriptions, une foule de gens qui se ruent sur les listes, des profs qui tentent, malgré le brouhaha, d'expliquer le contenu de leurs cours. Bref, j'emprunte le prospectus avec les différents cours proposés et leurs descriptifs. La liste défile rapidement sous mes yeux et un titre m'arrête. Genre et sexualité. Je lis à peine le descriptif, je saute sur le papier où inscrire mon nom. Je décide d'y aller au feeling. Et puis la foule m'étouffe, je veux partir vite, peu de noms, tant mieux pour moi. Deux ou trois semaines plus tard, le premier cours. Le cours le moins bien placé de la semaine, 2 heures le vendredi de 16 à 18 heures. Mais je tombe amoureuse, littéralement. Au lieu d'une tannée, cela devient le moment que je préfère, que j'attends, le dessert qui me fait digérer la semaine. Différentes thématiques sont traitées. Grammaire, stéréotypes, cinéma, mouvement féministe, photographie, littérature. Et c'est le déclic. Au début, je n'ai pas très bien saisi, je me suis juste laissée emporter. Quand je rentrais, je faisais des recherches supplémentaires et puis étonnamment, c'est l'année où j'ai trouvé un Marguerite Duras dans la rue que j'ai dévoré. L'année où j'ai commencé à lire Virginia Woolf, dont j'avais entendu parler en terminale sans vraiment comprendre. L'année où j'ai compris pourquoi l'autobiographie de Simone de Beauvoir m'était toujours restée au fond de la gorge. J'ai commencé à lire des magazines, des articles, à vouloir me faire ma propre opinion et à la fois ça résonnait au fond de moi comme si c'était là depuis toujours. Puis est arrivé le moment où j'ai mis un mot sur ce que je revendiquais. Parce que j'ai commencé à le revendiquer en me l'appropriant. J'ai fait de cette cause ma cause. Et puisqu'elle était partagée, il y avait un nom. Alors j'ai assumé mon féminisme. Le féminisme, pour moi, ça représente le fait de revendiquer une égalité entre femmes et hommes, de lutter contre les discriminations liées au genre et de déconstruire les objets sociaux que sont l'homme et la femme, c'est-à-dire tout ce qui les caractérise socialement. C'est ma définition. Je le vis d'une manière subjective par rapport à ce que j'ai vécu et les choses auxquelles je crois en tant qu'individu. Le fait de mettre le mot féminisme sur ce que je ressentais a été un soulagement. Non pas parce que je le partageais, mais parce qu'en le nommant, cela prenait de la valeur. Depuis que je me revendique comme telle, j'ai fait face à plusieurs types de réactions. Pour bon nombre de personnes, je suis devenue quelqu'un d'autre. L'étiquette féministe est collée sur mon front. Avec elle, toutes les définitions possibles et imaginables. À l'époque, ma copine m'avait dit que j'étais devenue trop extrême, parce que je ne pouvais plus regarder la télé, les publicités, les films, les clips, les émissions sans faire de remarques quand je voyais quelque chose de sexiste. Pour moi, c'était simplement ne plus être passive et aveuglée. Aujourd'hui, il y a les gens que ça fait rire, qui aiment me taquiner avec ça. Il y a ceux qui partagent mes idées. Et puis, il y en a d'autres qui l'acceptent simplement. Mais toutes ces personnes ont un point commun. Depuis qu'elles me connaissent, elles pensent à moi lorsqu'elles voient une publicité, un stéréotype, lorsqu'une personnalité fait une remarque sexiste, lorsque l'occasion se présente de plaisanter avec ça. Ce qui m'amuse, c'est qu'inconsciemment, elles apprennent aussi à différencier ce qui est sexiste ou non. J'assume cette étiquette, ce sont des idées qui me tiennent à cœur. Alors non, je n'arrive plus à supporter les clichés et stéréotypes véhiculés par la société sur les manières d'être masculin, masculine et féminin, féminine. Je n'arrive plus à me taire face aux injustices commises sur les femmes parce qu'elles sont des femmes. Je ne peux pas accepter qu'un homme, parce qu'il est un homme, ait une plus grande valeur qu'une femme ou qu'il ait accès à plus de droits. C'est plus fort que moi. Moi aussi, j'ai intériorisé ce qu'est être une fille, depuis que je suis jeune, à l'école, dans ma famille, bien sûr. Alors au moment de m'assumer en tant que femme, je me suis demandé ce que c'était être une femme. Et j'ai pris une décision. Je ne veux pas être une femme, je veux être moi. Et je veux vivre dans une société où je peux l'être sans que l'on me prédéfinisse. Et je veux me battre pour que partout le fait d'être une femme ne soit plus synonyme de soumission, de faiblesse ou de tout autre caractère associé au sexe qui justifie trop souvent des discriminations. Carole, volontaire en service civique, Poitiers.